Radio Okapi.
Bonjour mesdames et messieurs, nous allons d'abord suivre les titres de ce journal. Commençons par la riposte contre Ebola qui se renforce en Ituri, principal épicentre de la 17e épidémie en RDC. En mission à Bunia, le docteur Jean Kaseya Africa CDC et Mohamed Yacoub OMS Afrique ont pris part à plusieurs activités aux côtés des autorités provinciales. À son arrivée mardi à Uvira, capitale provisoire du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi a exhorté la population au calme. Le gouverneur accuse des réseaux proches de l'ennemi de mener une campagne de désinformation. Jean-Cyrus Mirindi, juriste diplômé en droit, s'interroge sur l'initiative visant un éventuel référendum en RDC. Invité de Radio Okapi, il estime que cette démarche soulève des questions quant à sa conformité avec les exigences constitutionnelles. Au cours de cet entretien, ces juristes abordent également les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle et livrent son analyse sur le mode de scrutin en vigueur depuis la réforme électorale de 2011. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. La riposte contre la maladie à virus Ebola se renforce en Ituri, principal foyer de la 17e épidémie en République démocratique du Congo. En mission à Bunia, le directeur général d'Africa CDC, Dr Jean Kaseya, et le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, le Dr Mohamed Yacoub, en visite au chef-lieu de la province depuis ce mardi, ont participé à plusieurs activités aux côtés des autorités provinciales. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Gabi Kasongo Mulumba, a inauguré mardi le nouveau centre de traitement d'Ebola de Ruankole en présence du directeur général d'Africa CDC, Jean Kaseya, et du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Mohamed Yacoub. D'une capacité de 100 lits, ce centre, le plus grand mis en place depuis le début de la réponse en Ituri, doit renforcer la prise en charge des malades et améliorer les capacités des réponses face à l'épidémie. La délégation a ensuite visité la coordination provinciale de la riposte avant d'échanger avec les leaders communautaires, parmi lesquels les jeunes, dont l'implication est jugée essentielle pour renforcer la sensibilisation et l'adhésion des populations aux mesures de prévention. En marge de cette visite, une campagne de sensibilisation a été menée auprès des conducteurs de motos, de Bunia, des thermoflashes et des gels hydroalcooliques leur ont été remis afin de renforcer le triage sanitaire, la détection précoce des cas suspects et le respect des mesures barrières. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Pendant ce temps à Kinshasa, l'accès aux toilettes publiques demeure un véritable défi pour de nombreux habitants. Dans plusieurs communes de la capitale, trouver des installations sanitaires adaptées relève parfois du parcours du combattant. Une situation qui affecte le quotidien des usagers et soulève des questions sur la disponibilité et l'aménagement des infrastructures publiques. Face à ces constats, les préoccupations se multiplient et les débats sur l'assainissement urbain refait surface. Le point avec Jean-Marie Kanaimba.
Le constat invisible sur plusieurs grandes artères de la capitale, du boulevard du 30 juin à la Gombe, au boulevard Triomphal, Sindwe et Lumumba, jusqu'au Ropoengaba. Les toilettes publiques sont rares, voire inexistantes à certains endroits. Cette insuffisance met de nombreux usagers dans une situation d'inconfort, notamment les passagers de transport en commun, les commerçants et les personnes contraintes de passer plusieurs heures loin de leur domicile.
En tout cas, problème, il y a
le problème des toilettes à Kinshasa est très compliqué. Il n'y a pas de toilettes. On n'arrive pas à comprendre ce système-là. Alors que l'État devrait prendre ses responsabilités en construisant des toilettes publiques pour aider les gens en circulation. Il faut que les services d'hygiène s'impliquent aussi. J'étais sorti vers la ville et j'ai senti les besoins, mais par manque de toilettes, j'ai fait dans les habits.
Face à cette réalité, de nombreux habitants plaident pour la construction et la multiplication des toilettes publiques dans les zones à forte fréquentation. Selon eux, l'installation de ces infrastructures constitue non seulement une question de confort, mais aussi de santé publique et de salubrité urbaine.
Parlons à présent de cette hausse du prix de la bière au Kasaï central. Depuis l'arrêt des activités de l'Unibra, la bière est devenue plus rare sur les marchés locaux et son prix a considérablement augmenté. Pour s'approvisionner, les commerçants sont désormais contraints de faire venir les boissons depuis d'autres provinces. Résultat, une bouteille de 65 centilitres se négocie entre 6 000 et 8 000 francs congolais, un tarif que beaucoup de consommateurs jugent excessif. Face à cette hausse des prix, certains se rabattent sur des boissons fortement alcoolisées, souvent moins coûteuses et plus faciles d'accès. Une tendance qui préoccupe les professionnels de santé en raison des risques liés à la consommation abusive d'alcool. Reportage d'André Katendengala Modomé.
Au bistrot Canal de Suez, dans la commune d'Indécha, à Kananga, les clients se font de plus en plus rares. Derrière le comptoir, les bouteilles s'accumulent en attendant les acheteurs. Ici, une bouteille d'Nkoi se vend à 6000 francs congolais, tandis que celle d'Ntembo coûte jusqu'à 7500 francs. Adolphe Mouteba, responsable de l'établissement, exprime son inquiétude.
Les prix de la bière augmentent parce qu'on ne la produit pas dans notre province. Nous allons acheter à Chikapa et nous payons les transports.
Face à cette flambée de prix, de nombreux consommateurs revoient leurs habitudes. Certains délaissent la bière au profit des boissons fortement alcoolisées, notamment le Chichampa, vendu à un prix plus accessible.
Les prix de la bière a augmenté, mais nous n'avons pas assez d'argent. Nous avons aussi les charges de la maison. Voilà pourquoi nous buvons du vin des palmes ou soit de l'alcool.
Cette évolution préoccupe toutefois les professionnels de santé. Ils alertent sur les risques liés à la consommation excessive des boissons fortement alcoolisées. Selon eux, leur usage abusif peut favoriser l'apparition des problèmes de santé, accroître les risques d'accident et entraîner des comportements à risque. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi.
Le gouverneur du Sud Kivu appelle la population au calme et à vaquer normalement à ses occupations. Jean-Jacques Pourouzi a lancé ce message mardi à son arrivée à Uvira, capitale provisoire de la province, après plusieurs mois d'absence. Le chef de l'exécutif provincial dénonce ce qu'il qualifie de campagne de désinformation menée par des réseaux proches de l'ennemi. Selon lui, ces réseaux diffusent sur les médias sociaux des fausses informations faisant état de la chute de certaines localités, notamment Lengue et Rurambo, ainsi que de l'encerclement de la ville d'Uvira par les rebelles du M23. Jean-Jacques Pourouzi affirme que ces informations sont sans fondement et invite la population à ne pas céder à la panique. Il assure que toutes les dispositions sécuritaires nécessaires ont été prises par les forces armées de la RDC afin de protéger les habitants et de garantir la sécurité de la ville d'Uvira et de ses environs. Jean-Jacques Pourouzi, dans cet extrait recueilli par Ronéline Tibonera.
Tout ce que nous sommes en train de voir dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est l'armée numérique ennemie qui est en train de monter des montages incroyables pour dire que Lengue sont tombés, Rurambo, ainsi de suite, et que Uvira serait déjà encerclé. Ça, c'est la campagne médiatique ennemie, c'est tout à fait faux et archi faux. Je tenais ici à rassurer devant le commandant en région qui contrôle la zone. Nous avons nos FRDC, nos frères et sœurs Ouazalendo qui sont déployés sur ce terrain et qui sont dans ces zones. Et le commandant en région lui-même revient de ces zones d'opération dans les hauts plateaux. Nous tenons à le féliciter, à féliciter les Ouazalendo et dire à la population, dormez tranquillement. Nous-mêmes, nous sommes ici, nous dormons ici. Soyez rassurés que tout se passe bien et nos forces de défense et de sécurité sont en train d'assurer le nécessaire. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, qui a déployé les moyens conséquents pour faire face à l'ennemi.
Comment structurer et moderniser la gestion de l'espace national à travers les réformes et de l'aménagement du territoire? Cette question est au centre d'une table ronde des experts étatiques et non étatiques qui se réunissent à Kinshasa du 4 au 5 août. À l'initiative du ministère de l'aménagement du territoire, cette rencontre vise également à définir une planification territoriale cohérente pour un développement harmonieux du pays. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Les participants à ces forums de deux jours réfléchissent aux enjeux clés liés à la mise en œuvre des instruments de planification spatiale, à la coordination des politiques sectorielles et à l'optimisation du développement socio-économique durable des provinces et des entités territoriales décentralisées. À travers cette session, indique le ministre de l'aménagement du territoire, le gouvernement veut faire de la planification spatiale intégrée la boussole de toute action étatique. Selon Jean-Lucien Moussa, l'objectif et d'identifier les zones stratégiques et de définir la vocation économique de chaque territoire, qu'elle soit agricole, minière, forestière ou industrielle.
Notre richesse ne réside pas uniquement dans nos ressources naturelles. Elle réside également dans notre espace national. L'enjeu fondamental n'est donc plus simplement d'occuper les territoires. Il est désormais de l'organiser, de les structurer, de les connecter et de les rendre productifs. Autrement dit, il s'agit de transformer notre territoire en véritable levier de création des richesses nationales.
De son côté, le vice-premier ministre de l'Intérieur a précisé que l'enjeu vital est de restaurer l'autorité de l'État et de décloisonner la gouvernance spatiale de la RDC.
Ce journal se poursuit au Nord Kivu où un nouvel incendie s'est déclaré la nuit dernière dans le quartier Tamende en ville de Beni. Selon les services de la protection civile, le sinistre serait parti d'un court-circuit survenu dans un dépôt de boissons alcoolisées avant de se propager à d'autres bâtiments voisins. Grâce à l'intervention rapide de l'équipe anti-incendie de la MONUSCO, les flammes ont pu être maîtrisées, limitant ainsi l'ampleur des dégâts. Cette action est saluée par la protection civile qui réitère son plaidoyer en faveur de la dotation de la ville de Beni en camions anti-incendie. Elle rappelle que depuis le début de l'année, la ville de Beni a déjà enregistré 15 incendies, soit une moyenne de 2 sinistres par mois. Jean-Paul Kapitula, coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni, s'est confié au téléphone de Marc Marofimbo.
La MONUSCO nous est toujours chère à Ville de Beni. Et lorsqu'il y a des incendies, on appelle. D'ailleurs, il faut encore rappeler que la réponse qu'il y a eu hier, c'était très prompte. À moins de 20 minutes, le camion anti-incendie qui a décollé de l'aéroport de Mavivi, à 12 km de la ville, est arrivé pendant que moi et des volontaires, on essayait de donner des conseils techniques à la population pour essayer d'intercepter ce feu qui prenait déjà de l'ampleur. Et heureusement que même tout ce qu'on a pu utiliser, le sable, de l'eau, essayer d'atténuer tout un petit peu et la continuation du feu. Et donc, la MONUSCO nous a servi de beaucoup et nous continuons toujours à plaider que les initiatives qui sont en cours, comme je le sais bien, on discute toujours avec les affaires civiles, que s'il y a lieu qu'on puisse nous doter d'un camion anti-incendie, il est plus que nécessaire parce que ça devient plus gênant chaque fois rappelé et parfois aussi pendant que les camions anti-incendie de l'aéroport a d'autres activités. Mais si on nous affecte vraiment un camion anti-incendie à nous, ça pourra être une manière aussi d'un accompagnement des surplus que nous a toujours fait les affaires civiles de la MONUSCO.
Cap sur la province de l'Équateur, le projet Foresterie communautaire et expérimentation des paiements pour services environnementaux a été officiellement lancé hier mardi 4 août à Mbandaka. Ce projet met les communautés locales et peuples autochtones pygmées au cœur de la gestion durable des forêts, notamment à travers l'accompagnement des concessions forestières de communautés locales, les renforcements de leur gouvernance, la mise en œuvre des plans simples de gestion et la surveillance communautaire des forêts. Ce lancement s'est tenu à l'occasion de la première réunion du comité de pilotage du projet. D'autres détails avec vous, Alain Hirung.
Le projet Foresterie communautaire et expérimentation des paiements pour services environnementaux contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+ en RDC. Il vise à soutenir la lutte contre la déforestation et la préservation des forêts de haute intégrité dans la province de l'Équateur. Il prévoit également d'expérimenter des subventions communautaires basées sur la performance comme étape vers des paiements pour services environnementaux adaptés au contexte des forêts communautaires en RDC. Pour sa part, le gouverneur de l'Équateur a exprimé sa satisfaction. Bobo Boloko.
Notre ambition est de faire de l'Équateur la capitale écologique de l'Afrique en démontrant qu'il est possible de concilier le développement et la protection.
La première réunion du comité de pilotage a permis de poser le cadre de gouvernance et d'orientation du projet pour accompagner sa mise en œuvre. Financé par le FONARED avec l'appui de CAFI, le projet Forex PSE est mis en œuvre par Rainforest Foundation Norway en collaboration avec Rainforest Foundation UK, GACHE, SPFA, GCE et Trias.
Dans la province du Lualaba, la société de transport de Kolwezi Sotracol répond ses activités. L'entreprise a lancé ce mardi 10 grands bus destinés à assurer la liaison entre Kolwezi et Lubumbashi. Le prix du billet est fixé à 25 000 francs congolais, soit environ la moitié du tarif pratiqué par les transporteurs privés sur ces mêmes trajets. Cette reprise des services est accueillie avec espoir par de nombreux voyageurs en quête d'un moyen de transport plus abordable. Le point avec Paulin Munanga.
Le voyage inaugural a été gratuit et chaque passager a eu droit à 20 kilos de bagages. Ces bus qui disposent chacun de 65 places assises vont effectuer le trajet Kolwezi-Lubumbashi long de 320 km en passant par les villes de Fungurume et Likasi. Les bus sont confortables. Les passagers saluent cette initiative. Nous sommes très contents et nous remercions l'initiateur. Et nous sommes comblés. Nous sommes à Kolwezi à l'agence de Sotracol. Nous venons de prendre les bus gratuitement sans payer aucun rond. Nous sommes très contents. À nous d'être sérieux pour garder jalousement ces véhicules qui viennent d'être mis à notre disposition. Signalons que ces bus ont été acquis sur fonds propres de la mairie de Kolwezi. L'objectif est de faciliter la mobilité de la population à moindre coût. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Espagne avait été alertée dès le mois de juillet du risque d'un accroissement de la pression migratoire sur Ceuta, a affirmé un haut responsable du royaume chrétien, rejetant toute défaillance du dispositif sécuritaire côté marocain. Il estime que la question migratoire ne relève pas exclusivement de la responsabilité de son pays. De son côté, Madrid nie avoir reçu tout avertissement.
L'invité.
Titulaire d'un diplôme d'études supérieures en droit, Jean-Cyrus Mirindi s'interroge sur l'initiative visant à engager la RDC sur la voie d'un éventuel référendum. Invité de Radio Capi, il estime que cette démarche soulève des questions au regard des dispositions constitutionnelles encadrant l'organisation d'une consultation référendaire sur l'ensemble du territoire national. Au cours de cet entretien, ces juristes abordent également les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle et livrent son analyse sur les modes de scrutin en vigueur depuis la réforme électorale de 2011. Jean-Cyrus Mirindi répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Jean-Cyrus Mirindi.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Vous venez de défendre votre mémoire des DS et DA sous les thèmes « Les référendums comme expression de la souveraineté du peuple face aux dispositions intangibles de la Constitution de 2006 ». Quel est le message à retenir de ce travail scientifique ?
Le référendum est un droit inaliénable, mais lorsque le référendum est utilisé pour réviser certaines dispositions de la Constitution, il ne peut pas porter atteinte aux dispositions interdites. Mais lorsque le référendum est utilisé comme étant l'expression du pouvoir du peuple, d'idéaux, en ce moment-là, le référendum permet l'avènement d'une nouvelle constitution. Mais nous sommes allés un peu plus loin dans notre recherche pour analyser la révision de 2011. Et c'est à ce niveau-là que nous avons constaté qu'il y avait une fraude à la constitution, notamment par l'article 71, qui organisait l'élection du président de la République à la majorité absolue. Avec la modification de l'article 71, c'était une fraude à la constitution et notre constitution érige la fraude à la constitution à une prévention imprescriptible au regard de l'article 64 et en combinaison avec l'article 220. Et comme vous le savez, il y a un principe sacro-saint en droit, la fraude corrompt tout. Si aujourd'hui on annule cet article 71, le compteur revient à zéro et l'actuel chef de l'État, s'il le désire, il peut se représenter. Et là, en ce moment-là, il n'a pas besoin d'une révision constitutionnelle ni d'un changement de la Constitution. La pratique qui permet au stade actuel, à l'actuel chef de l'État, d'atteindre ses ambitions, c'est de recourir à la normalité constitutionnelle. En annulant l'article 71 modifié, nous rentrons à l'article 71 de l'élection avec possibilité de détour et juridiquement, le chef de l'État actuel, s'il le désire, il pourra maintenant rempiler, avoir deux mandats et cela, il n'aura pas violé la Constitution parce que la fraude qui a été opérée, c'était pas sa majorité et c'était pas sa famille politique et c'était pas son initiative. Et le chef de l'État peut attaquer cet article 71 au niveau de la Cour constitutionnelle ou même, lui-même, à travers les compétences qui lui sont dévolues, il peut rapporter sa signature à poser sur la loi de promulgation. Et là, il va prendre un acte administratif par rapport à cela, dont la conséquence sera de retirer partiellement ou l'article problème dans l'ordonnancement juridique congolais.
Quel a été les critères de choix de ces sujets ?
Le critère de choix, c'est la promotion de l'état de droit. Il y a un problème aujourd'hui, vous savez que les solutions qui sont proposées par-ci par-là sembleraient ne pas rencontrer l'adhésion de notre peuple. On s'est posé la question, c'est qu'il n'y a pas une autre voie juridiquement défendable et juridiquement acceptable qui permet l'intégrité territoriale, la paix sociale. C'est dans ce cadre-là que nous sommes intéressés parce que la démocratie constitutionnelle aujourd'hui prône la primauté du droit et combat les antivaleurs qui sont pratiquées constamment par le pouvoir constituant dérivé, notamment la fraude à la Constitution, qui crée un dysfonctionnement majeur. Donc, en rentrant à la normalité constitutionnelle, on crée un consensus autour de cette question-là. Et si certaines personnes estiment que l'actuel chef de l'État ne devrait pas être président de la République, il devrait en ce moment-là s'organiser pour l'abattre au niveau des urnes, mais juridiquement, il aura le droit, comme cela a été le cas du Sénégal avec Abdoulaye Wade.
Quel parallélisme dresserez-vous entre votre sujet de défense et la crise actuelle née de l'idée de revoir la Constitution?
Ma thèse vient apporter une solution consensuelle qui permet de couper la poire en deux entre aller dans des extrêmes d'un changement de la Constitution pour conserver le pouvoir ou la révision et entre annuler une fraude qui vous amène aussi au même résultat. Je pense que le choix est clair.
Quelle est l'opportunité au stade actuel d'aller au référendum? Selon vous,
que au stade actuel, pour aller au référendum, les conditions ne sont pas réunies. Parce que il faudrait que tous les Kivus soient dans les giron national. L'article 5 impose que lorsqu'il y a référendum, que tout le peuple puisse participer. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle à titre dérogatoire qui permet que le référendum puisse se faire à une partie du territoire national. On aurait consacré la balkanisation de ces pays et justifié le reste. Voilà pourquoi je dis, au lieu d'aller dans des chemins extrêmes, scientifiquement et juridiquement, la voie la plus plausible serait d'annuler cette anomalie constitutionnelle opérée en 2011 par ses retours à la légalité constitutionnelle.
Monsieur Jean-Cyrise Mirindi, merci.
Je vous remercie aussi.
C'était notre invité Jean-Cyrise Mirindi qui répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Voilà qui met fin à ce journal de la mi-journée, coordonné et supervisé par Alain Irung Mouchinge et mis en onde par Alain Goy. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre page internet www.radiocapi.net.